Confrontée à une demande aussi bien sociale que parentale qui évolue, soumise à une réorganisation profonde des catégories de son savoir et atteinte de plein fouet par les restrictions budgétaires d'un État-providence en crise, la pédopsychiatrie se trouve à la croisée des chemins. Elle est aux prises avec de nouveaux symptômes, un nouveau savoir et une nouvelle demande. Comme toutes les institutions aujourd'hui, la pédopsychiatrie se voit donc sommée de justifier ses coûts et d'aligner des résultats, d'être évaluée au même titre que n'importe quelle autre intervention sociale. Mais n'est-ce pas passer par pertes et profits ce qui en fait la spécificité, à savoir une intervention humaine dans une histoire humaine ? L'enfant risque d'être réduit au statut d'être doté d'un comportement qui fonctionne et qui doit s'adapter au statut de mammifère humain. Quelle place reste-t-il à la prévention, à la tentative de compréhension d'une psyché, d'un destin singulier, de l'histoire d'une famille ? Dans quelle mesure les avancées de la science modifient-elles l'approche thérapeutique ? Qu'est-ce qu'il faut attendre, par exemple, du médicament ? La pédopsychiatrie ne risque-t-elle pas de se voir recrutée au service au mieux d'une adaptation mentale et au pire d'une répression sociale ? Ce sont les questions que l'on va se poser ce matin en compagnie de mes trois invités, tous trois pédopsychiatres, Tristan Garcia-Fons, qui est pédopsychiatre et psychanalyste, médecin directeur du CMPP de Montreuil et également du centre Jean Massé et d'un hôpital de jour dans le 93, Richard Horowitz, pédopsychiatre et psychanalyste, médecin directeur du CMPP Gustave Eiffel dans le 15e arrondissement, et Christian Mille, professeur de pédopsychiatrie à l'université d'Amiens et responsable d'un secteur de santé mentale infanto-juvénile. Alors, la profession vient de connaître successivement deux événements importants. Tout d'abord, le congrès des CMPP, on pourrait dire, intitulé « Les CMPP dans la cité » et plus récemment encore, « Les états généraux de la pédopsychiatrie du département de la Seine-Saint-Denis ». Alors ma première question, c'est une question je crois que beaucoup d'auditeurs se posent, on s'intéresse à l'avenir de la pédopsychiatrie, à son devenir, à ses enjeux, à ses défis, mais est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux troubles ? Est-ce que cette nouvelle demande de soins n'est pas associée à de nouveaux troubles, de nouveaux symptômes, Christian Mille ?
Oui, là, c'est toujours un peu risqué enfin, de répondre à une question comme ça, puisque on essaie de percevoir enfin, donc, des mouvements enfin, qui sont en train de se mettre en place. L'impression qu'on peut avoir, c'est qu'il y a certainement une certaine évolution dans les demandes qui nous sont faites. On a l'impression que les demandes sont plus intriquées, il y a une sorte d'embrouillamini enfin, donc, entre le social, le scolaire, le psychologique, enfin, tout ce qui circule dans les médias. Les parents qui viennent consulter pour leurs enfants ont déjà des réponses toutes prêtes.
Enfin, ils sont beaucoup plus informés.
Alors voilà, il y a beaucoup plus d'informations. Il y a des gens qui sont allés rechercher sur Internet des réponses et ils rencontrent spécialistes qui pourraient éventuellement mettre en œuvre les solutions qu'ils ont déjà trouvées ailleurs.
Enfin, donc, avec une demande d'adaptation, une demande d'avoir un enfant qui très tôt, un enfant qui soit conforme, qui soit aux normes.
Alors, probablement parce que on est dans une période où l'enfant est précieux, hein, où au fond, le message que les parents font passer, c'est que l'enfant puisse développer au maximum toutes ses potentialités. Donc, ce qu'on nous demande, enfin, c'est que cet enfant-là, lorsqu'il est entravé pour des raisons diverses ou parce que lui-même vient faire entrave, enfin, donc, dans le milieu scolaire, enfin, ou social, eh bien, on nous demande de faire en sorte qu'il retrouve pleinement, enfin, donc, la jouissance de toutes ses potentialités. Enfin, donc, c'est une question qui est un peu biaisée, hein, quand elle est posée comme ça.
Richard Horowitz, vous avez...
Je ne sais pas s'il y a des nouvelles demandes. Je dirais qu'on nous demande des nouvelles façons de faire, plus exactement. Alors, quand je dis « on », c'est les parents, comme l'a dit Christian Mille, c'est un peu nos gestionnaires et nos... ceux qui nous fournissent les sous. Parce qu'avant, quand on voyait un enfant, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe encore et qu'est-ce qu'on tient à ce qui se passe toujours? Ben, je voyais arriver le petit Kevin. Le petit Kevin, il avait 6 ans, il a 6 ans, il est en fin de CP, il n'arrive pas à lire. Bon. Et quand je vois arriver le petit Kevin, moi et les gens de mon équipe, et je pense la majorité des pédopsychiatres français, se disent ben, le petit Kevin, c'est quoi? Alors, c'est un être neurobiologique. Donc je vais vérifier si tout s'est bien passé, de 0 à 6 ans, comment tout ça a évolué. Et puis c'est un individu social, et c'est un individu social bien avant qu'il soit à l'école, puisqu'avant il était à la crèche, et qu'au travers de toutes ses expériences, ben, ça a enrichi, ça a construit ses connaissances. Et puis surtout c'est un sujet affectif, avec l'amour, avec les manques, avec les frustrations. Il a un père, il a une mère, du moins on l'espère. Et il a une fratrie, ça se passe pas toujours bien. Et son problème de difficulté à apprendre à lire, c'est un peu au confluent de tout ça. Et moi, j'ai à l'analyser, à le relire, à travailler avec les gens avec qui je travaille et qui vont s'occuper du petit Kevin, un peu au carrefour de ces trois.
Tenter de le comprendre.
Tenter de comprendre. Comprendre au sens mettre ensemble. Ce qu'on nous propose actuellement, c'est quelque chose de... Alors bon, là, on a reconnu, dans ce que je racontais, une façon de travailler de la pédopsychiatrie française.
Classique,
qui a fait ses preuves, adossée à la psychanalyse, mais pas seulement. Ce qu'on nous propose maintenant, c'est quelque chose de plus chirurgical, je dirais. On va mettre le paquet. Il y a le petit Kevin avec son problème, on va s'occuper du problème. Et on va mettre le paquet en ce sens qu'on va utiliser beaucoup de moyens.
Pour traiter les symptômes.
Pour traiter les symptômes. Alors, ça sera des moyens pédopsychiatriques, mais ça sera aussi des moyens cognitifs, ça sera des moyens pédagogiques. Ça peut être... Là, ça ne se pose pas dans l'exemple que j'ai pris, mais ça peut aussi être des médicaments. Voilà, on va focaliser comme ça sur le symptôme. Alors, bon, c'est caricatural ce que je dis, j'ai pris un peu les deux extrêmes, il y a beaucoup de choses qui se situent entre ces
deux. Parce que peut-être que la science a évolué, peut-être aussi que la science est capable de nous donner, avec les médicaments, avec une meilleure connaissance de la neurobiologie, des réponses mieux adaptées.
La crainte qu'on peut avoir, nous, c'est que cette deuxième méthode que j'ai décrite et qui se réfère un peu à une psychiatrie anglo-saxonne, est réputée moins chère, est réputée plus rapide, est réputée plus efficace. Et je ne voudrais pas que nous ne voudrions pas que le balancier aille trop loin dans ce sens-là et qu'on ne puisse plus pratiquer cette vision globale que je décrivais au début dans ma manière d'apprendre le petit Kevin.
Vous partagez ce diagnostic, Tristan Garcia-France?
Oui, tout à fait. Je voudrais dire à propos de ces nouvelles demandes ou de ces prétendues nouvelles demandes qu'évidemment la réalité est plus contradictoire que ça. Certes, les familles ou les adultes partenaires des institutions de soins qui orientent les enfants vers des consultations ou vers des lieux de soins sont pénétrés, comme tout le monde, du discours ambiant sur les pathologies psychiatriques, l'émission de la veille à la télé, effectivement ce qu'ils peuvent apprendre par Internet. Mais en même temps, au-delà de comment vont se formuler les choses, c'est-à-dire, disons, à travers les mots MOTS de l'époque, pour parler des mots MAUX du moment, il y a très vite aussi, à partir du moment où on prend le temps d'écouter les familles et les gens, des demandes qui arrivent et qui sont des demandes pas si nouvelles que ça. Alors, je vais prendre quand même l'exemple aussi d'une catégorie qui est beaucoup employée aujourd'hui à la fois par les familles, mettons par les enseignants, qui fait partie de ces nouvelles catégorisations de l'enfant, c'est-à-dire quand on parle par exemple des troubles du comportement ou des troubles des conduites.
C'est pas nouveau, les troubles du comportement. Ouais,
voilà, mais cette manière d'en parler, de l'amener comme un concept et comme un motif de consultation, ça c'est assez nouveau, on n'aurait pas dit les choses tout à fait de la même manière il y a 10 ans, et ça s'appuie aussi sur des nouvelles conceptions telles que celles qui ressortent de la dernière expertise INSERM sur les troubles des conduites.
Alors,
ces troubles du comportement, c'est ça que je voulais dire, je vais en donner une définition, c'est-à-dire que les troubles du comportement, ce sont aussi les comportements qui troublent. C'est-à-dire que, au-delà de ce que peut recouvrir les dits troubles du comportement, qui est un ensemble extrêmement flou, qui va de l'agitation la plus banale jusqu'à des pathologies de l'agir beaucoup plus graves et liées à des structures de personnalité beaucoup plus en difficulté. On a aussi une sorte d'autodiagnostic, si vous voulez, je vais terminer là-dessus pour passer la parole au suivant. Il y a une sorte d'autodiagnostic finalement dans le discours, c'est-à-dire qui dit quelque chose de comment les gens aujourd'hui sont troublés. Et c'est là-dessus que je voudrais...
L'autodiagnostic, ça fait partie de l'idéologie qu'on pourrait appeler do it yourself. Hein, c'est-à-dire, vous êtes votre propre thérapeute, vous êtes votre propre contrôleur, vous êtes votre propre contremaître, vous êtes votre propre éducateur, vous avez toutes les compétences en vous. Et finalement, ça fait partie de cette sorte de, comment dirais-je, de mythe de l'immanence, aujourd'hui, qui est un mythe individualiste, qui est très contemporain. Moi, je voudrais rappeler la définition que j'ai lue dans le fameux rapport de l'INSERM, et vous demander de réagir, parce qu'elle m'a troublé. Moi, en tant que juriste et en tant qu'ancien juge, le trouble des conduites s'exprime par un comportement au cours duquel sont transgressées les règles sociales. Il se situe à l'intersection de la psychiatrie, du domaine social et de la justice. Christian Mille, ça veut dire que finalement, on a l'impression qu'on a ouvert beaucoup d'obturateurs, hein, que ces troubles des conduites, c'est quelque chose qui, je ne sais pas si c'est psychiatrique, mais en tout cas, c'est à l'évidence au croisement de la psychiatrie, de la société et de la justice et de la loi.
Oui, enfin, le mérite de cette définition, c'est que précisément, on ne demande pas à la psy de dire la vérité sur l'ensemble des troubles de conduite. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un certain nombre des troubles de conduite qui peuvent avoir un éclairage psychopathologique, mais on ne peut sûrement pas dire que l'ensemble des troubles des conduites peuvent s'éclairer par la psychopathologie. Alors, l'intérêt malgré tout de ce rapport INSERM, c'est de sensibiliser sur une certaine permanence entre difficultés qui s'expriment dans l'enfance et qu'on retrouve plus tardivement, chez le grand enfant, chez l'adolescent, voire à l'âge adulte. Ce sont les études longitudinales qui nous informent le plus sur le devenir des enfants. Ça va un peu à l'encontre ce découpage en catégories telles qu'il existe dans les classifications internationales.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cet affrontement, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a une sorte d'affrontement entre les nouvelles catégories de la pédopsychiatrie et des catégories traditionnelles de la psychiatrie française, notamment la pédopsychiatrie française.
Voilà, donc en tout cas dans la pédopsychiatrie française, la pédopsychiatrie française fait figure quand même d'irrésistibles gaulois, parce qu'on reste attaché à une classification française des troubles mentaux de l'enfant et adolescent, qui est une classification qui, pour être utilisée, ne peut être utilisée que par des spécialistes, c'est en fait des gens qui ont une certaine compétence au niveau du repérage psychopathologique, ce qui n'est pas le cas des autres classifications, qui constituent une sorte d'espéranto, une sorte de langage qui pourrait être utilisé de manière très large, et qui a normalement comme seul objectif que de donner une description extérieure d'un certain nombre de troubles. Alors, il y a des rapprochements qui ont été faits entre les deux, parce qu'on ne peut pas complètement ignorer ce qui se passe sur le plan international, et en particulier, il y a des correspondances possibles entre la classification française des troubles mentaux...
Est-ce que vous pouvez donner un exemple pour nos auditeurs d'une classification française et une nouvelle classification?
Par exemple, dans la classification américaine, dite DSM-4, puisque c'est la dernière version de SM4R, on parle essentiellement du TADA.
Qu'est-ce que c'est que cette affaire?
C'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou non hyperkinésie, c'est-à-dire qui s'accompagne ou non d'une instabilité psychomotrice. Dans l'exécution française, on trouve certes de manière isolée cette possibilité de classifier, mais les troubles hyperkinétiques peuvent être un symptôme d'une psychose de l'enfant, d'un état névrotique, d'un trouble entre névrose et psychose, voire de troubles réactionnels. C'est-à-dire que là, on a besoin d'autres critères d'évaluation et on n'en reste pas à cette approche un peu superficielle et descriptive des troubles.
Est-ce que je me trompe si je dis que la nomenclature française s'attache plus à comprendre le sens, la signification, l'origine des troubles et moins à décrire des symptômes de manière extérieure. Et qu'aujourd'hui, on irait vers une classification plus qui retient des comportements que leur manifestation externe.
Oui, alors c'est sûr, hein, c'est que dans les classifications internationales, se sont données comme objectif de laisser le sens de côté. Enfin, donc, puisque là, il y a probablement des approches différentielles, enfin, au plan éthiopathogénique, au plan des étiologies, enfin, et donc là, on essaie d'aller dans le sens d'une description objective sur laquelle chacun pourrait tomber d'accord. Enfin, sauf que forcément, ça aboutit, enfin, donc, à la description de quelques entités qui sont prises pour des réalités, alors que ce ne sont pas des réalités. C'est simplement des regroupements de signes.
Oui, si vous voulez, c'est-à-dire que dans ces néo-classifications qui ont aussi pour caractéristique d'éliminer toute histoire des classifications en psychiatrie, parce que ce n'est pas seulement quand même la psychiatrie française. Les classifications auxquelles on faisait référence, là, s'inscrivent dans une histoire de la nosographie, de la nosologie, qui est européenne en particulier.
Mais dans laquelle la France a joué un rôle important.
Effectivement, avec l'idée prévalente dans ces nouvelles classifications, cette notion du trouble, c'est-à-dire d'un dysfonctionnement en général par rapport à une norme comportementale, on abandonne tout à fait la compréhension, comme vous le soulignez, mais aussi l'idée de penser des ensembles pathologiques qui ont une cohérence interne. Et ce faisant, on fait de chaque trouble, c'est-à-dire de chaque dysfonctionnement, une structure en elle-même qu'elle n'est pas forcément. Et on arrive aussi à une atomisation de la pathologie, c'est-à-dire qu'à chaque symptôme, à chaque signe, finalement, va correspondre une nouvelle entité.
C'est ça. Parce que le foyer
on
de sens,
perd tout
oui.
sens de ce qui se passe pour l'individu. C'est la même chose, si vous voulez, c'est comme si en médecine habituelle, on faisait de la toux, qui est un symptôme qui peut exister dans des tas de pathologies différentes, très bénigne et très grave, une entité en soi. Elle-même.
Voilà. Richard Horowitz.
Non, sur la perte de sens que vient de souligner un peu Tristan Garcia-Fonds, et pour revenir un petit peu sur le rapport de l'INSERM, puisque ça fait couler beaucoup d'encre quand même, ce qui est choquant dans cette affaire, c'est pas tellement qu'on embauche un peu les psychiatres pour prédire l'avenir. Enfin, si, c'est choquant, mais c'est pas nouveau. Nisant parler des psychiatres garde-fous de la société, des choses comme ça. Mais là, on leur demande pas d'être garde-fous comme le racontait Nisant, on leur demande de prévenir et de prédire l'histoire d'un enfant qui a des troubles de... Alors, je peux prendre le petit frère de mon Kevin de tout à l'heure. Il veut pas aller se coucher. Il veut pas aller se coucher, et de façon répétitive, sténique, intensive, il refuse d'aller se coucher. Bon... est-ce que pour autant je vais vous faire rentrer dans les TOP, puisque TOP alors, il s'agit
oui, alors TOP, oui, c'est, top, trou, c'est un autre
c'est,
nom
c'est un autre acronyme assez oui. amusant qui oui. est le trouble d'opposition avec provocation et qui doit être dépisté très tôt puisque le rapport parle de 36 mois je crois, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que je vais le faire rentrer dans les TOP en me disant il y a quand même une chance pour que dans le futur il passe de son état de petit gamin présentant en réalité des troubles du sommeil à un adolescent présentant des troubles de la conduite, voire un futur délinquant? Est-ce que je me place dans cette perspective-là qui peut avoir son intérêt en gestion du risque où est-ce que je me place comme pédopsychiatre en me demandant quelle est la signification de cette opposition et si l'opposition, c'est pas tout à fait constructif. On le sait très bien, à partir du moment où on a tâté un peu des concepts psychodynamiques, que l'enfant, il a besoin de s'opposer. Alors pourquoi mon petit, alors appelons-le Jonathan celui-là, serait stigmatisé comme top et qu'est-ce que j'ai à en faire moi en tant que pédopsychiatre? C'est ça mon problème.
Parce que la question que j'ai envie de vous poser, c'est, elle est double et c'est dans deux sens opposés. Premièrement, est-ce qu'on sait beaucoup plus de choses aujourd'hui, Christian Mill, de la biologie du cerveau, de la neurobiologie, du substrat scientifique du développement de l'enfant? Et est-ce que cette nouvelle classification est en lien avec de nouvelles connaissances? Puis ensuite, je voudrais poser une question sur l'autorité, parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup.
Oui, incontestablement, il y a plus de connaissances, enfin, donc, sur le plan neurobiologique. Bon. Ça ne veut pas. Enfin, il reste la nécessité de ne pas confondre, enfin donc cause et effet, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que on peut par exemple visualiser, enfin donc comment s'activent certaines zones du cerveau chez certains enfants en difficulté que l'on peut pour autant en conclure quelque chose sur les causes premières. Il va de soi que toute difficulté, quelle qu'elle soit, a bien donc une traduction, enfin donc au plan neurobiologique, puisque parler, ça a aussi une traduction sur un plan neurobiologique, bon, etc.
Mais c'est pas nécessairement une cause. Bon,
mais bien sûr que non. Ouais. Hein. Ce n'est pas parce que là, on pourrait dire voilà dans telle zone, enfin est plutôt activée à droite qu'à gauche, enfin donc c'est une particularité. Ça vient témoigner, enfin donc d'un dysfonctionnement, mais ça ne dit rien sur l'origine du dysfonctionnement. Le risque, c'est toujours quand on essaie de faire des raccourcis explicatifs. Bien sûr qu'on ne peut pas penser sans cerveau. Mais il y a bien forcément des bases neuroanatomiques, neurocognitives, enfin, qui sont nécessaires. Enfin, mais comme on ne peut pas marcher sans jambes. Enfin, donc,
il y a aujourd'hui un réductionnisme scientiste. Oui. Hein, c'est-à-dire que, bien sûr, on sait davantage de choses. Pour autant, on en sait encore très peu. Et on ne peut pas faire dire à la science ce qu'elle ne dit pas.
Hein. Non, c'est pour ajouter un peu à ce que disait Christian Mille à l'instant. C'est-à-dire que si ça n'explique rien, ça n'exclut rien non plus. Je veux dire que toutes les données qu'on a avec l'imagerie médicale, avec, font état d'un cerveau qui est d'une plasticité extraordinaire. C'est ça qu'on s'aperçoit. Mmh. Avant, on était sur l'image d'un cerveau figé, on essaie avec tant de neurones et on ne faisait qu'en perdre, grosso modo.
Et ça, on est complètement revenu là-dessus.
Oui, on est complètement revenu là-dessus. Cette plasticité du cerveau, elle n'est pas du tout incompatible, par exemple, avec les théories psychodynamiques, avec l'analyse et un certain nombre de théories de ce registre-là. Donc, on a à être attentif à toutes les nouvelles données anatomiques qu'on peut avoir, anatomiques ou physiologiques. Elle n'explique rien, elle n'exclut pas non plus.
Mais, et une autre question qu'on se pose, c'est bien sûr, alors là, aux antipodes de la neurobiologie, c'est des sortes de raisons sociologiques, voire anthropologiques, avec cette fameuse disparition de l'autorité ou modification très profonde de l'autorité qui ferait, vous disiez, Richard Horowitz, qu'un enfant se structure en s'opposant. Mais est-ce qu'il trouve toujours des gens en face de lui? Est-ce que c'est pas trop lui demander d'avoir à se construire, comme on dit, ou se reconstruire aujourd'hui, qui sont les maîtres mots de notre vocabulaire psychologique, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans d'autres domaines? Est-ce que vous constatez des endroits où vous êtes une évolution de la pédopsychiatrie ou de la prise en charge des enfants du fait de cette hypothétique disparition de l'autorité parentale?
Alors, c'est toujours un peu délicat, hein, donc, hein, de parler, enfin, donc, de disparition d'autorité, parce que reste dans les enfants qu'on voit, enfin, des enfants qui sont soumis à un autoritarisme d'une rigidité totale, enfin, il y a encore des enfants maltraités, enfin, donc on ne peut pas comme ça en conclure, enfin, donc, que l'autorité aurait complètement disparu. Hein. Bon. Il n'empêche qu'on a le sentiment que le rapport entre adultes et enfants a pu changer, hein, et que les adultes que l'on rencontre en tant que parents sont en difficulté pour imposer des choses à l'enfant, pour imposer des frustrations, comme s'ils étaient toujours en train de reconstruire quelque chose de leur propre enfance. Donc il y a une identification beaucoup plus importante avec le fait que là, l'enfant va pouvoir réaliser donc les rêves qu'ils ont laissés en suspens. Et donc ça, c'est un élément probablement important. Il y a, comme je disais tout à l'heure, l'idée que l'enfant doit pouvoir réaliser l'ensemble de ses potentialités, et donc les parents ont très peur d'étouffer donc toutes ces potentialités qui pourraient comme ça émerger donc chez l'enfant, et ce qui rend d'ailleurs les demandes un peu ambivalentes, donc parce que comme toute forme d'expression est valorisée, eh bien aucune limite parfois n'est donné donc à l'enfant, qui se sent autorisé donc à exprimer bien au-delà de ce qui est tolérable au fond dans le plan social. Si on On n'aide pas l'enfant, hein, donc à se guider sur le plan des habiletés sociales. Enfin, donc ça ne se fait pas tout seul.
La compétence sociale, comme on dit.
Sur les compétences sociales, parce qu'on attend que l'enfant, en quelque sorte, puisse s'identifier au législateur, sans qu'on passe par les étapes antérieures, comme celle de la moralité de contrainte, qui est une étape un peu obligée, où là, l'enfant doit être confronté à la fois à des limites et à des obligations.
Est-ce que c'est pas aussi une profonde illusion de croire que l'enfant peut être son propre législateur, comme si on ne recevait pas la loi de quelqu'un d'autre, par définition, que la loi avait ce caractère structurant, discours extrêmement fort dans la prise en charge notamment des adolescents et des adolescents délinquants, ce fameux rappel de la loi comme étant le rappel de quelque chose qui structure. Tristan Garcia-Fond, justement, on parle pour l'instant des enfants, de manière très générique, mais il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des enfants, effectivement, et puis il y a des adolescents, des préadolescents et des adolescents. Est-ce qu'une des difficultés de la psychiatrie aujourd'hui, de la pédopsychiatrie, c'est pas d'avoir à faire face à des problèmes extrêmement différents suivant les âges de l'enfance et de l'adolescence? Est-ce qu'on n'a pas, ce qu'on constate par exemple dans la justice des mineurs, une sorte de différence accusée entre le bébé porteur de toutes les potentialités et en même temps capable d'être victime, et l'adolescent menaçant, celui qui nous fait peur aujourd'hui?
Alors il y a certainement des spécificités suivant les âges. Si on parle de l'adolescent qui fait peur, d'abord il faut savoir que c'est l'adolescent qui fait peur, c'est d'abord un adolescent qui a peur. Et ça souvent... on l'oublie, ou les adultes ne le voient pas, du fait même de leurs agir, puisqu'il y a beaucoup cette dimension de l'acte, en particulier chez l'adolescent.
Mais vous les voyez, vous, ces adolescents-là? Ou vous voyez principalement des enfants?
On voit aussi ces adolescents, bien entendu. Oui, oui. Si c'est dans une pratique de consultation type CMP ou CMPP, on reçoit un peu tous les âges.
Alors, il y a une dernière dimension dont on n'a pas parlé avant de venir plus particulièrement sur la prise en charge institutionnelle, c'est les médicaments. Est-ce que vous disiez, Richard Horowitz, qu'aujourd'hui on attend des prises en charge beaucoup plus rapides, beaucoup plus ciblées, c'est aussi parce qu'on a des produits nouveaux peut-être, non ?
On a sûrement des produits nouveaux. Il y a tout le problème qui a été posé autour de la Ritaline, hein, le problème des troubles de l'attention dont parlait Christian Mille tout à l'heure, pour lequel on a beaucoup promu la Ritaline. Hein. On peut d'ailleurs se demander, quand on parle du DSM-4 et de la manière dont Tristan Garcia-Fond en a parlé, sont conçus les classifications et les items des classifications, si on n'est pas pour déboucher assez rapidement sur une réponse qui peut être une réponse médicamenteuse. Beaucoup ont accusé le DSM-4 d'être un peu l'instrument des laboratoires pharmaceutiques. Il y a sûrement des réponses pharmaceutiques. Je ne sais pas du tout si elles doivent être majoritaires.
Christian Mille, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette réponse médicamenteuse? Est-ce qu'elle doit être conçue comme complémentaire? Est-ce qu'elle doit être principale? Est-ce qu'il y a des nouveautés, des percées importantes qui ont été faites dans ce domaine?
Alors, moi, par rapport à ça, je pense que les pédopsychiatres doivent connaître, hein, donc les psychotropes, qui peuvent être utilisés, parce que si ce n'est pas les pédopsychiatres qui les prescrivent, hein, donc à bon escient, ils seront de toute façon prescrits par d'autres.
C'est-à-dire par les médecins?
Par les médecins généralistes. Bon, ce n'est pas le cas, effectivement, de la Ritaline, puisqu'elle doit être prescrite soit par un spécialiste. Malgré tout, on ne peut pas complètement sous-estimer, les avancées liées à l'usage de certains psychotropes, qui ont permis de casser, certains cercles vicieux, qui ont pu permettre à des enfants, de retrouver une place plus banale. Les pédopsychiatres français ont longtemps été très méfiants par rapport à l'usage de la Ritaline. Ils ont en partie raison.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie leur réticence ?
Alors, ce qui justifiait leur résistance, c'est que la Ritaline était... donc, vous savez que c'est un produit amphétamine-like, c'est-à-dire que c'est considéré comme un excitant, qui a un effet paradoxal, puisque ça permet au sujet de se calmer. Et donc, on craignait que ce produit puisse être utilisé dans un but toxicomaniaque. C'était un des grands risques. On a l'impression que là, on allait très vite. Il y a des milliers d'études sur l'usage de la Ritaline. Aucune étude n'a pu aller dans le sens d'un usage toxicomaniaque du produit. Par contre, toutes les études ont pu montrer que l'usage seul de ce produit était loin d'être suffisant pour répondre aux difficultés sous-jacentes à un trouble déficitaire de l'attention avec ou non hyperactivité. C'est-à-dire que même s'il y a une amélioration symptomatique, les difficultés de comportement associées, les troubles des conduites persistent. Et donc, à l'adolescence, cette étude, il y a près de 50% des adolescents qui, à ce moment-là, continuent de présenter des troubles de conduite alors qu'ils ont été traités correctement par la Ritaline et par des thérapies cognitivo-comportementales.
Je voudrais compléter, c'est-à-dire que les médicaments psychotropes, ils peuvent être évidemment intéressant dans des situations bien précises, à partir du moment où on les prescrit de façon rigoureuse, à partir du moment où on les, on les emploie, et à partir du moment aussi où ils ne sont pas la réponse unique, dans tous les cas, à un symptôme. Alors, le risque d'un médicament tel que celui qui a été cité, qui a été prescrit massivement aux USA et dans d'autres pays, en Angleterre, et maintenant quand même beaucoup en France, c'est que toute agitation d'un enfant, qui peut être une agitation normale, amène à une prescription de ce type de molécules. De même que on pourrait penser que toute anxiété mène à une prescription d'anxiolytique. Alors, je crois qu'à la fois, on peut prescrire, il faut le faire prudemment, et je pense que nous avons raison d'être prudents, et d'autant plus chez le petit enfant, parce qu'en même temps, il y a eu beaucoup d'études, mais il n'y a pas tant d'études que ça sur l'ensemble des psychotropes, et en particulier pour les enfants de moins de 6 ans. Et or, actuellement, on assiste quand même à une inflation de la prescription de psychotropes chez l'enfant et chez le petit enfant. Donc, je crois qu'il faut être prudent et extrêmement rigoureux et penser le traitement de façon plus globale, c'est-à-dire pas uniquement le médicament qui répond aux symptômes.
C'est pas incompatible avec une démarche thérapeutique classique, Richard Ruiz, dont vous parliez.
Non, c'est pas du tout incompatible. On l'a bien vu d'ailleurs dans l'utilisation des psychotropes chez l'adulte auparavant. Je voulais simplement rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, le risque c'est celui que Christian Mine notait, c'est-à-dire que si on prescrit pas, nous, d'autres prescriront. Et la Ritaline, l'autre médicament semblable, avait cet inconvénient, effectivement, d'être un amphétaminaque et ne pouvoir être prescrit qu'en zone hospitalière. Son successeur pourra être prescrit par tout un chacun,
médecin. Oui.
Donc on voit quand même qu'il y a une dérive possible et qu'il faut y être attentif.
Alors il y a quand même aussi une particularité française qui est celle de la psychanalyse. L'importance que continue d'avoir la psychanalyse parmi dans la psychiatrie française, dans la pédopsychiatrie française, là aussi c'est une exception. C'est une exception par rapport à ce qui se passe dans tous les autres pays. On a l'impression que la psychanalyse a largement régressé. Christian Mille, quelle évaluation vous faites de la situation de la pédopsychiatrie française face à ces homologues de l'Europe du Nord notamment et anglo-saxonne?
L'éclairage psychanalytique continue d'avoir une grande importance dans l'analyse psychopathologique des enfants que l'on peut rencontrer. Ce n'est pas un éclairage exclusif. Richard Horowitz l'a rappelé, lorsqu'on voit un enfant, un enfant a un corps, un cerveau, il peut y avoir finalement des causes neurobiologiques à explorer. Il est là le lieu d'une influence socio-familiale qu'on prend en compte. Et puis, il est aussi le lieu d'organisation de conflits qu'il a plus ou moins intériorisé, puisque c'est ça qui caractérise aussi l'enfant, c'est que l'enfant reste dans des conflits de tendance qui sont au moins en partie extériorisés, c'est-à-dire que il n'a pas complètement intériorisé ses conflits, et ce qui fait qu'il, en quelque sorte, il convoque les autres, de son entourage, dans un espace psychique un peu élargi, pour participer dans un psychodrame un peu permanent. Et c'est ça qu'il faut pouvoir repérer. C'est pour ça qu'on ne peut pas, un enfant tout seul, un bébé tout seul, ça n'existe déjà pas, mais un enfant tout seul non plus. Puisqu'il faut resituer l'enfant dans l'ensemble des interrelations conscientes et inconscientes qu'il détermine. Et c'est ça qui fait vraiment la grande différence. Lorsqu'un parent vient demander des soins pour un enfant, certes, donc il souhaite que l'enfant soit soulagé de ses symptômes, mais il y a parfois une demande tout à fait contraire, c'est-à-dire que les parents, sans en avoir conscience, profitent. Donc, entre guillemets, de ces symptômes, en jouissent quelquefois. Enfin, donc, je prends un exemple tout simple. Enfin, donc, une mère, enfin, donc, qui vient se plaindre du comportement, enfin, donc, d'un top, hein, de conduite d'opposition, de provocation à l'école. Enfin, et alors, avec un sourire jusqu'aux oreilles, elle dit, vous savez, enfin, donc, il rend folle la maîtresse, enfin, donc, elle n'en peut plus, enfin, donc, elle est prête à prendre des arrêts maladifs, hein, et ce que l'enfant découvre, enfin, c'est le sourire épanoui de sa mère, enfin, donc, quand elle est en train de décrire les difficultés qu'il ne manque pas de provoquer à ses enseignants. Et notre rôle, c'est de voir finalement quelle est l'histoire de cette femme avec l'école. Enfin, donc, parce que ça a pu compter dans le fait qu'elle envoie inconsciemment son enfant, enfin, donc, pour la venger, enfin, donc, des humiliations qu'elle-même a pu subir au cours de son enfance. Enfin, c'est une hypothèse, mais c'est pour dire qu'il y a forcément plusieurs dimensions, enfin, et qu'on a probablement intérêt, à côté donc des justifications conscientes qui sont amenées par les parents, voire par l'enfant lui-même, donc à tenir compte un peu de tout ce qui se joue, tout ce qu'on peut percevoir et qui se joue sur un plan inconscient.
Alors, c'est ce qui nous amène à parler des conditions d'exercice de la pédopsychiatrie, qui elles aussi sont en train de changer singulièrement. Et on pourrait dire que le même esprit d'époque qui pousse à se concentrer sur les symptômes et qui pousse finalement à l'effectivité d'un être beaucoup plus qu'à sa santé et qu'à sa guérison, le rendre, l'adapter à la situation sociale, se retrouve bien sûr au niveau des institutions. Et là, on a l'impression que les CMPP, les institutions de soins de manière plus générale, subissent cette évolution, c'est-à-dire, si je résume ce que l'on constate par ailleurs, eh bien, une certaine judiciarisation des rapports, une revendication de la part des parents et aussi une pression de la part des financeurs, de la part des gens qui soutiennent ces institutions. Où est-ce que nous en sommes, Richard Horowitz ?
Ben, on est des mauvais élèves. On est des mauvais élèves un peu pour toutes les raisons qu'on a dites auparavant. C'est-à-dire que il est normal que on est financé par l'assurance maladie à 100%, que ce soit les CMP, que ce soit les CMPP, tout ce qui est, que ce soit les consultations hospitalières, tout ce qui est consultation ambulatoire de pédopsychiatrie. Donc il est normal qu'on nous demande des comptes. Oui, voilà ce que je voulais dire. On a les mauvais élèves un peu à notre corps défendant parce que on a une activité qui est fort peu protocolisable. Alors on a essayé, on essaye dans le domaine médico-social qui est celui des CMPP, c'est-à-dire que on introduit protocole sur protocole, indicateur sur indicateur pour arriver à quantifier ce qu'on fait. Mais le cœur du sujet, la relation que décrivait Christian Mine, elle ne rend pas un protocole. On peut protocoliser la prise en charge d'une fracture de jambe. C'est assez simple. On y arrive, mais encore qu'il y ait des écoles différentes. Là, s'introduire dans le domaine du subjectif de la relation entre un thérapeute et des parents, un thérapeute et des enfants, ou d'une équipe et une famille, c'est assez compliqué. Donc on protocolise tout ce qui est autour. On protocolise la manière de faire l'accueil, on protocolise la manière de gérer une salle d'attente.
Le temps passé.
On protocolise le temps, etc. On est un petit peu un cauchemar de libéraux, je dirais. C'est-à-dire on s'attache à des sujets qui ne sont pas des acteurs du marché, hein, peu responsables. On essaye d'en faire, dans une exception bien française, des usagers. Compliqué. Et on a une activité qui rentre peu dans les chiffres, quand même.
Mais ça, est-ce que vous ne croyez pas qu'est-ce que vous répondrez à ceux qui vous diraient « Oui, ça, mais c'est vrai également de la justice, tenez, d'un secteur qui est comparable, mais qu'on cherche aujourd'hui, avec la fameuse LOLF, à protocoliser et donc à essayer, ne serait-ce que pour en mesurer la production et aussi dans un souci de rendre des comptes. Est-ce que c'est si particulier que cela, Tristan Garcia, font l'activité thérapeutique ?»
Oui, parce qu'il y a cet irréductible de l'individu sujet, comme nous on dit dans notre jargon. Donc il y a une dimension qui n'est pas évaluable, de même que la pratique de notre art n'est pas...
Vous ne parlez plus de science.
N'est pas... Oui, parce que la pratique médicale en général et cette pratique médicale très particulière qui est la psychiatrie, même si elle peut chercher à avoir une certaine rigueur scientifique, n'est pas une science en tant que telle. Donc tout n'est pas... évaluable. Il y a bien sûr des comptes qu'on peut rendre, surtout quand on travaille dans le secteur public ou apparenté sur notre travail, mais effectivement, il y a toute une dimension qui ne peut pas être protocolisée, même si on veut à tout prix nous le faire faire.
Et
c'est-à-dire
ressentez...
qu'on arrivera à des résultats qui n'auront aucun sens et qui, de surcroît, nous empêchent de travailler. Parce que si on passe notre temps à remplir des feuilles et des cases pour dire ce qu'on fait. Pendant ce temps-là, on ne voit plus les enfants. Moi, j'ai vu ça très précisément dans mon hôpital de jour pour nous faire accréditer. Pendant 6 mois, ça impliquait un tel nombre de réunions que les éducateurs spécialisés qui doivent être auprès des enfants ne pouvaient pas y être un bon nombre d'heures par semaine. Donc on ne peut pas passer notre temps non plus à évaluer des pratiques qu'on va finir par ne plus avoir. D'ailleurs. Bon.
Oui.
Alors, cette folie évaluatrice, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, cette fureur d'évaluation, Elle répond, à mon sens, quand même à deux motifs. C'est-à-dire, il y a évidemment un motif économique et qui est pensé sur le mode assurantiel, du mode de l'assurance privée. C'est-à-dire qu'il s'agit de repérer des coûts par rapport à des pathologies et que ça puisse rentrer dans un système assurantiel. Et il y a une dimension... Pardon, plus écologique,
plus idéologique,
et plus idéologique, c'est-à-dire une nouvelle écologie, on pourrait dire, qui est celle que nous abordions tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on pense les individus comme des êtres purement comportementaux, c'est-à-dire réduits à des comportements ou à des fonctions, ou est-ce qu'on est totalement autonome de tout ce qui leur arrive, ou est-ce qu'on les pense autrement, c'est-à-dire aussi dans une histoire, dans des surdéterminations sociales, inconscientes, etc., que nous essayons de continuer de penser, hein, même si c'est compliqué. Et c'est vrai que par rapport à ça, face à ceux qui veulent évaluer et simplifier, on a souvent à offrir qu'un discours de la complexité qui n'est pas toujours aisément recevable.
Alors, Christian Mille, comment est-ce qu'on peut combiner cette demande de plus en plus infinie de santé, d'adaptation, avec les ressources de plus en plus finies de l'État-providence ? Parce que c'est finalement là le problème. C'est-à-dire que je crois que cette pression économique, elle vient aussi d'une limitation, d'une finitude des ressources.
Oui, là... Oui, il me semble que précisément, lorsqu'on rencontre des parents et un enfant, la première stratégie, n'est pas de soustraire cet enfant à ses parents-là, pour pouvoir s'en occuper, leur rendre, une fois qu'on a fini notre travail. Ce qui fait notre spécialité, c'est faire en sorte que les parents eux-mêmes retrouvent leur capacité thérapeutique avec leurs propres enfants. Capacités qui sont parfois entravées par leur histoire, par leurs propres entraves, par leurs propres problèmes. Dans un certain nombre de situations relativement simples, des troubles réactionnels, par exemple, parfois quelques consultations peuvent suffire à dénouer des difficultés parce que c'est un malentendu. Entre un enfant qui a une source de souffrance inconnue de la part de ses parents, il suffit parfois de faire le lien entre ce à quoi est confronté l'enfant.
Il faut dissoudre les malentendus. Oui.
Et ce qui aboutit à ce moment-là à une guérison spectaculaire. Donc on peut dire qu'il y a un certain nombre de situations que l'on peut guérir en 2 ou 3 séances. Et puis il y a des maladies au contraire très graves, plurifactorielles, comme l'autisme, les psychoses, qui là de toute façon vont nécessiter des réponses thérapeutiques qui vont s'inscrire dans la durée, avec de l'institutionnel, avec beaucoup d'engagement sur le plan relationnel dans la durée. Personne ne pourra prétendre traiter un enfant autiste en quelques séances. Donc il faudra effectivement inscrire ce travail thérapeutique sur des années.
Et vous pensez que la protocolisation aujourd'hui, la rémunération, l'organisation de la santé vous permet cette prise en charge satisfaisante des psychoses lourdes, quoi, des problèmes lourds de la pédopsychiatrie?
Voilà, je ne saurais pas vous parler de ce que peuvent ressentir les gens CMPP, mais en tout cas dans les CMP publics, oui. Pour l'instant c'est encore une menace, mais il n'y a pas encore d'empêchement à concevoir les soins comme on l'entend.
Alors Tristan Garçafond et ensuite Richard Rosovitz.
Oui, alors sur le mode effectivement de quelle pratique on peut avoir, effectivement, pour l'instant on ne nous impose pas une bonne pratique, et je pense d'ailleurs qu'en psychiatrie, la bonne pratique, c'est qu'il y en ait plusieurs des pratiques. Mais donc on n'est pas encore à ça, mais le problème des moyens, lui, par contre, et en particulier pour les pathologies de troubles graves de la personnalité, le problème des moyens se pose de manière importante, accrue dans certains départements. Effectivement, si on parle de la Seine-Saint-Denis, il y a actuellement, par exemple, près de 200 enfants qui ont des pathologies de type autisme et psychose qui sont à la maison, faute de place. Donc là, il y a un manque de moyens tout à fait certains en type d'accueil dans des structures adaptées qui permettent de mettre en place des projets de soins adapté. D'autre part, si on évoque quand même aussi la question des moyens, et puisqu'on parle de la pédopsychiatrie, il faut quand même dire un mot sur la diminution du nombre des psychiatres en France. Oui. Il y avait 13 000...
Ce qui est un problème général de la psychiatrie, oui. C'est qui est pas...
Alors, qui est un problème général de démographie médicale, mais qui touche particulièrement la psychiatrie, et qui va avoir des effets extrêmement importants, puisque en 2020, si vous voulez, il y aura moitié moins de psychiatres qu'il n'y en avait à la fin des années 90.
Une question, Tristan Garçafond, puisque vous êtes dans le 93 et qu'un département qui a été secoué ces dernières semaines par des émeutes et par des troubles sociaux très graves qui traduisent quand même un mal-être profond de la part de ces banlieues. Est-ce que ça interpelle, comme on dit aujourd'hui, la pédopsychiatrie? Est-ce que vous voyez un lien, une réaction possible par rapport à ces catégories de population extrêmement reléguées, pas nécessairement défavorisées affectivement, mais en tout cas défavorisées économiquement et socialement?
Alors d'abord, en premier lieu, je voudrais remercier ces préadolescents qui nous ont aidés, les pédopsychiatres, à faire parler des difficultés que nous rencontrions dans le travail en Seine-Saint-Denis. La deuxième chose, je dirais, c'est que les praticiens de la psychiatrie en Seine-Saint-Denis sont pas très étonnés que ce genre d'événement survienne. L'autre chose, c'est qu'on peut pas faire uniquement une lecture psychologisante ou psychiatrisante de ces phénomènes, qui sont aussi des phénomènes qui ont trait à des questions et à des tensions sociales, économiques, politiques. On peut aussi apporter notre écho à une réflexion sur ce qui est survenu là, et je pense qu'on doit le faire avec d'autres, bien avec sûr. Les autres acteurs sociaux.
Richard Horowitz, comment vous voyez l'avenir des CMPP? Comment combiner ces nouvelles conditions d'exercice de votre art avec les difficultés plus en plus structurelles?
Les CMPP, c'est une structure de psychiatrie ambulatoire. C'est une structure de proximité qui gère à peu près, un peu moins, de la moitié des enfants qui sont vus en ambulatoire en psychiatrie. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'a touché un peu du doigt Christian May tout à l'heure, par rapport aux pathologies lourdes. Parce que le reste, finalement, on gère pas si mal, on a un problème de moyens énorme, mais par rapport aux pathologies lourdes, c'est ce que j'appellerais, moi, le rejet vers le handicap. Ce qui s'est produit un peu avec l'autisme. Et ce rejet vers le handicap, ça veut dire qu'on décide un peu, on fixe les choses, on décide un peu que les moyens thérapeutiques, on peut les réduire au profit de compensations financières, parce que c'est un peu ça qui se passe, et que les parents peuvent gérer à condition qu'on les aide un peu financièrement, et qu'en tout cas, ça revient beaucoup moins cher que de mettre... Des moyens thérapeutiques.
Les 200 enfants dont vous parliez, ce sont des enfants qui sont soutenus financièrement par la Cotorep ou par le handicap social, j'imagine.
Qui éventuellement disposent d'une allocation de la C2S.
C'est ça. Donc il y a cette tendance-là. Si cette tendance s'étend, Je veux dire que si on commence à avoir une vision extensive du handicap, les CMPP par exemple sont inscrits dans le champ du handicap, alors que c'est des structures qui sont à la limite, effectivement, entre le sanitaire et ce qu'on appelle le sanitaire et le médico-social. Si cette tendance se dérive vers le handicap s'étend, elle pourra toucher des pathologies qu'on avait classées, ou que Christian Mille avait classées tout à l'heure, dans ce qu'on sait bien faire, ce qu'on peut faire, ce qui... Alors, c'est ce champ du handicap qui s'étend, auquel nous, au CMPP, on est peut-être plus sensible que dans le dans le sanitaire, hein, qui, moi, m'inquiéterait un peu.
Christian Mille.
Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a une certaine dérive, parce qu'au fond, on nous dirait, bon, écoutez, donc, au niveau de l'autisme, enfin, accepter l'idée, hein, que c'est un handicap neurosensoriel dont on ne connaît pas encore tout à fait l'origine, hein, mais il n'y a pas grand chose, au fond, à faire, enfin, sinon, de mettre en place une éducation particulière, enfin, donc, pour faire semblant, enfin, donc, d'être en relation sociale. Par contre, ce qui est demandé au PEPSI, mais c'est de s'occuper, enfin donc, de ces dérives sociales, enfin des troubles des conduites, enfin de manière, enfin à être plus un auxiliaire par rapport au risque de dérive sociale.
Enfin, donc, on en revient à cette logique centrale qui ramène la pédopsychiatrie, une certaine pédopsychiatrie intermédiaire, à une immense stratégie de lutte contre le risque aussi bien individuel que le risque social.
Alors moi j'ai un exemple, enfin donc un peu particulier, enfin qui ne concerne pas la psychiatrie de l'enfant, mais qui concerne, enfin ce qui s'est passé à Amiens par rapport au SMPR, enfin donc qui
c'est est le SMPR pour la prise en charge des prisonniers,
la prise en charge des détenus, enfin donc à la prison. Hein. Il se trouve qu'il y a eu un problème, enfin donc de démographie psychiatrique, enfin donc en psychiatrie générale, hein, et bon que le collègue qui devait s'occuper de cette structure est parti, enfin donc il y avait personne pour le remplacer, enfin et donc tous les collègues étaient dépassés par leurs difficultés, enfin donc à gérer leur propre service. Et une des réponses, enfin donc quand même percutantes des autorités tutelles, c'était de dire s'il ne reste qu'un seul psychiatre dans ce département, il s'occupera du SMPR.
C'est-à-dire des
c'est l'évolution et le risque pour cette fonction des pédopsychiatres, c'est-à-dire que petit à petit, et d'autant plus que le nombre va se réduire, qu'on soit mis en place d'experts, amenés sans arrêt à dire ce qui est dans la norme, ce qui ne l'est pas, et à prescrire des comportements normés, normatifs.
Et experts qui seront rapportés d'ailleurs au futur, un peu comme ce que l'on voit dans la justice, où le juge transforme en expert de quoi? De la dangerosité des individus. Christian Mille, Richard Horowitz, Tristan Garcia-Fond, merci. Cette émission a été préparée par Sébastien Miller, réalisée par Olivier Bétard, et la prise de son était assurée par Guy Senot.